Bienvenue à cette quatrième séance de cours. Le programme d'aujourd'hui, je voudrais vous parler toujours de théorie de champ moyen et en finir avec l'analyse des instabilités du modèle de Hubbard en champ moyen. Et puis, j'espère avoir le temps de commencer déjà un petit peu des choses en couplage faible sur la théorie du pseudo-gap en deux dimensions, dans le régime de couplage faible. Je n'ai pas tout à fait certain que j'arriverai jusque-là. Je vous rappelle que la fois prochaine, alors d'abord je voudrais vous dire que le séminaire d'aujourd'hui est fait par Thomas Schaeffer. Thomas était dans notre équipe au Collège de France et à l'École Polytechnique jusqu'à l'année dernière. Il est maintenant group leader au Max Planck de Stuttgart. Et il va nous parler de diagnostic de fluctuations dans les systèmes à forte corrélation électronique, donc comment en analysant des résultats numériques par exemple, on peut extraire les fluctuations dominantes qui contribuent à la physique. Voilà, ça sera un peu le thème général du séminaire. Et ce séminaire sera entièrement par Zoom, c'est-à-dire on le projettera dans l'amphi et il sera transmis en même temps en direct. Alors, le cours d'aujourd'hui, je vais donc d'abord vous parler un petit peu de théorie de champ moyen. Et je voudrais reprendre un petit peu des aspects de formalisme en vous montrant qu'en fait, on peut voir la théorie de champ moyen dans un cadre beaucoup plus général, qui est la construction d'une théorie de la fonctionnelle de densité exacte pour le modèle de Hubbard. Et le champ moyen, au sens habituel de Hartree, étant une approximation de cette théorie de la fonctionnelle de densité. Bon, alors pour faire ça, je vais procéder par transformation de Legendre, en fait. Alors, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus de lumière. Donc, je vais reprendre notre Hamiltonien favori avec le terme d'interaction. Et pour les besoins formels, je vais mettre devant la constante de couplage un paramètre variable, xi, qui va varier entre 0 et 1. Donc, vous voyez, quand c'est 0, c'est le système libre. Et puis, quand c'est 1, c'est le système qu'on veut étudier. Donc ça, c'est une technique qui est assez ancienne dans le problème à n-corps, qu'on appelle quelquefois dans les livres « coupling constant integration ». Et encore une fois, le but de tout ça, c'est de présenter une sorte de théorie de la fonctionnelle de densité. Je vais maintenant rajouter à cet Hamiltonien un ensemble de multiplicateurs de Lagrange, que je vais appeler lambda. Donc si vous voulez, ce sont des sortes de potentiels chimiques généralisés qui dépendent du site et du spin. Donc c'est comme un potentiel chimique local qui peut prendre deux valeurs différentes selon que le spin est up ou down. Donc c'est aussi un champ local. D'accord ? Et ces multiplicateurs de Lagrange vont avoir comme fonction d'imposer que les valeurs moyennes des opérateurs nombres, n i sigma, soient égaux à un ensemble prédéterminé de valeurs de ces densités. Alors, il y a une manière un peu formelle de faire ça, mais qui est vraiment juste construite à la transformée de Legendre, qui consiste à introduire une fonctionnelle oméga qui soit à la fois une fonctionnelle des densités qu'on veut prédéterminer, qu'on s'est donné au départ, et des multiplicateurs de Lagrange. Alors ça, c'est un petit peu analogue à ce qu'on appelle la fonctionnelle de Wein-Kadanoff, si on veut, à part qu'elle est introduite ici pour des opérateurs, des valeurs moyennes d'opérateurs statiques. On ne contraint pas les fonctions de Green. Mais si on généralisait cette construction, comme on le fait par exemple souvent dans le physique du problème à n-corps, et en particulier, c'est une manière de construire la théorie du champ moyen dynamique, on a vu ça il y a 2 ans, on peut construire la fonctionnelle de Baham-Kadanoff comme une fonctionnelle des fonctions de Green et des paramètres conjugués qui sont les self-énergies. Bon, c'est très analogue. Et donc on va définir ça comme l'énergie libre moins 1 sur bêta trace log de exponentielle, log trace de exponentielle de moins bêta l'Hamiltonien qui est ici. Alors je vais l'appeler H xi, disons, et c'est un... Il faut se souvenir que c'est une fonction des lambda, h xi de lambda. Et puis je vais lui rajouter le terme qui est juste des nombres, lambda i sigma et ni sigma. Là, il s'agit bien juste de nombres. Alors, vous voyez que, précisément, la propriété, si j'impose que la fonctionnelle oméga est variationnelle par rapport au multiplicateur de Lagrange, eh bien, ceci est équivalent à imposer que les multiplicateurs sont choisis de manière à imposer que les valeurs moyennes d'opérateur n soient égales à cet ensemble prédéterminé de valeurs petit n. Et ceci va être vrai quel que soit le paramètre xi. Donc pour toute valeur de xi, les multiplicateurs de Lagrange sont choisis de cette manière. Alors une fois que j'ai fait ça, cette équation me permet évidemment formellement d'inverser cette relation, d'exprimer les multiplicateurs de Lagrange comme des fonctions des densités. Et avec ça, je peux donc construire la fonctionnelle gamma, qui est la fonctionnelle de Gibbs, si vous voulez, qui maintenant est une fonction uniquement des densités, les densités et les aimantations. Quand je dis les densités, c'est les densités pour chaque direction de spin. J'ai choisi SZ comme axe de quantification, comme étant tout simplement oméga de d zani sigma, et puis des lambda i sigma, mais où j'ai inversé la relation, c'est-à-dire je les ai exprimés comme fonction des i sigma. Alors ça, c'est aussi f, je vous rappelle, plus somme des lambda i sigma, mais exprimé comme fonction des n fois n i sigma. Voilà. Alors bien sûr, à la stationnarité de cette fonctionnelle, delta gamma delta n i sigma, ceci me donne lambda i sigma, hein, relation habituelle de la transformée de Legendre, parce que quand je prends la dérivée par rapport au lambda, ça me donne 0 à cause de cette relation. Donc je trouve directement que lambda, c'est delta gamma sur delta n. Et à stationnarité, ceci est nul. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais écrire une expression exacte, formelle, de cette fonctionnelle de Gibbs des densités. Donc vous voyez, cet objet, c'est une sorte de fonctionnelle de densité exacte pour le problème. Et je vais rendre l'analogie avec la fonctionnelle de densité habituelle un petit peu plus explicite en vous donnant une construction précise de ça. Alors, si je regarde la dérivée de oméga par rapport à xi, qui est aussi la dérivée de gamma par rapport à xi, alors vous voyez que je peux utiliser le fait que la dérivée partielle de l'hamiltonien ici par rapport à xi, c'est égal à u somme sur i de ni up ni down, sens des opérateurs. Donc je peux, pour calculer cette dérivée, utiliser le théorème de Hellman-Feynman, et ça me dit immédiatement que cette chose est égale à u somme sur i de la valeur moyenne de la double occupation ni up ni down, et calculée évidemment en présence de cette constante de couplage variable xi. Et je peux maintenant intégrer cette équation pour donner une construction de gamma des ni sigma pour le système physique, c'est-à-dire à xi égale 1, le système qui nous intéresse, en écrivant que c'est gamma de ni sigma pour xi égale 0, qui est un système libre, donc j'appellerai ça dans la suite gamma 0 des ni sigma, plus u fois l'intégrale de 0 à 1 des xi de la valeur moyenne de ni up, ni down. Alors, il faut prendre cette expression un petit peu avec un grain de sel. On doit calculer cette valeur moyenne en présence de xi, d'une part, et d'autre part, avec un ensemble de ni sigma fixé grâce au multiplicateur de Lagrange. Donc, c'est la double occupation quand toutes les occupations locales sont fixées. Alors, vous voyez que ça me donne une construction formelle de cette fonctionnelle. Et pourvu, évidemment, il y a une hypothèse là-dedans, hein, que la relation entre les lambda et les n sont inversibles pour que la transformée de Legendre existe. Mais modulo cette hypothèse, on a construit une sorte de fonctionnelle de densité exacte pour le problème. Évidemment, formellement, on ne sait pas vraiment calculer ce terme. Et cette fonctionnelle de densité fait apparaître une référence ici, qui est celle du système libre. Alors, qu'est-ce que c'est que gamma 0? Gamma 0, c'est tout simplement un problème. Comment on construit gamma 0, donc la partie axi égale 0 de cette fonctionnelle? Eh bien, c'est tout simplement un problème libre. J'ai omis les potentiels chimiques, le potentiel chimique global dans toute cette discussion par simplicité, mais il est là quand même. Donc c'est le problème libre placé dans un potentiel extérieur local et des champs extérieurs locaux qui sont choisis de manière telle que les Ni sigma, mais cette fois calculés dans l'hamiltonien libre, soient égaux à mon ensemble prédéterminé de densité. Donc ça, c'est très analogue à la représentation de Cohn-Cham de la densité locale, dans la théorie de la fonctionnelle de densité, hein, où on représente les densités locales par un système d'électrons libres, dans un potentiel bien choisi. Et il me faut plus de craie. Ce potentiel bien choisi, ici il s'agit de potentiel et de champs locaux, hein, c'est très analogue au potentiel de Cohn-Cham, pour ceux qui connaissent la fonctionnelle de densité. Donc on a un système représentatif qui est un système d'électrons libres dans des champs et des énergies de sites bien choisis, de manière à représenter la densité exacte. Et ceci n'est pas une approximation. C'est une représentation, c'est un système représentatif de mes densités. Je me sers de ce système représentatif pour représenter ces densités et je construis la fonctionnelle, formellement une fonctionnelle de densité exacte en partant de ce système représentatif et en construisant les termes d'interaction. Alors vous voyez que je peux écrire ça un petit peu différemment si je veux. Je peux écrire ça comme un terme qui serait le terme où ces valeurs moyennes sont calculées à xi égale 0, donc ça donnerait... Enfin, je peux séparer ça, si vous voulez, entre valeurs moyennes et fluctuations, donc je peux réécrire ce terme u intégrale de 0 à 1 d'xi de valeurs moyennes découplées, donc il va me donner any up, any down, puisque j'ai imposé que les densités sont fixées, cette intégrale à ce moment-là disparaît, et puis un terme de fluctuation qui est u intégrale de 0 à 1 d'xi du corrélateur connecté. Et là, on est en complète analogie avec la théorie de la fonctionnelle de densité, où on a le système représentatif de Cohn-Cham, l'énergie de Hartree, et puis ce qu'on appellerait, dans le contexte de la fonctionnelle de densité, l'énergie d'échange et corrélation, donc tout ce qui vient des fluctuations et des corrélations de la de Hartree. Et vous voyez que la théorie de champ moyen, c'est simplement négliger ces fluctuations et approcher la fonctionnelle de densité par les deux premiers termes, c'est-à-dire tout simplement ces deux termes ici. Ça, c'est l'approximation de champ moyen, qui dans le contexte du modèle de Hubbard se réduit juste à l'approximation de Hartree, qui consiste juste à négliger ces termes. Mais en principe, et même en pratique, si on veut, on peut utiliser cette expression pour construire de meilleures approximations de cette fonctionnelle de densité. Par exemple, une chose qu'on peut faire, et ça a été fait dans certains articles, pas tout à fait sous cette forme, mais dans cet esprit, disons, on peut donner une construction perturbative systématique de cette fonctionnelle. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. On peut aussi, par exemple, penser à des approximations de cette fonctionnelle d'échange et corrélation en utilisant la localité du problème. Enfin, il y a différentes choses qu'on peut imaginer de faire. On peut chercher des approximations qui interpolent entre la limite libre et la limite atomique. Voilà. Bon, donc ça, c'est des choses qui n'ont pas été tellement exploitées et qu'on peut peut-être exploiter dans ce contexte. Donc je voulais vous donner un petit peu cet éclairage un peu formel sur la théorie de champ moyen qui peut sembler intéressant éventuellement pour des approximations ultérieures. Bon, alors je voudrais utiliser également cette fonctionnelle des densités pour maintenant vous parler un petit peu de fonction de réponse. Et puis je reviendrai ensuite aux instabilités qu'on trouve en champ moyen. J'en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois, mais je vais revenir dessus aujourd'hui. Donc voyons voir, où est-ce que je vais me placer? Je vais effacer ça, et je vais peut-être garder cette expression. Je vais garder cette expression. Je veux aussi vous rappeler que je peux écrire ça un peu différemment si je veux. Donc au niveau du champ moyen, je peux écrire cette expression comme au lieu d'utiliser les densités, je peux utiliser les densités pour chaque composante de spin. Je peux bien sûr utiliser les densités locales et les aimantations locales selon Z si j'ai envie. Cette fonctionnelle à ce moment-là, pardon, gamma, au niveau du champ moyen, ça va être gamma 0, donc exprimé aussi en fonction des N et des M. Hein. Et puis ici, vous trouverez U sur 4, somme sur I, de ni carré moins mi carré. Je vais m'en servir dans un instant pour dériver les fonctions de réponse. Donc maintenant, je voudrais parler un peu de fonctions de réponse. Et je vais utiliser une propriété très générale qui relie la réponse du système à un champ extérieur aux dérivées secondes du potentiel de Gibbs où on a contraint les aimantations ou les densités locales. Donc ça, c'est juste une propriété très générale des transformées de Legendre, mais je vais vous la rappeler rapidement. Donc, pour parler de fonction de réponse, j'ai besoin de mettre un champ extérieur. Donc, je vais ajouter dans mon Hamiltonien, alors disons, des champs locaux qui sont conjugués ou des potentiels chimiques locaux qui sont conjugués à la densité totale sur un site, et puis des champs magnétiques locaux qui sont conjugués à l'aimantation selon Z. Alors, j'aurais pu les appeler lambda I sigma, quelque chose comme ça, mais ça rend les choses un petit peu plus physiques de les appeler comme ça. De manière plus générale, si vous voulez, j'ajoute à mon Hamiltonien, comme on fait toujours dans la théorie de la réponse linéaire, des champs extérieurs, lambda i, conjugués aux opérateurs qui m'intéressent. Donc, les lambda, ça va être, disons, soit mu, soit h. Et puis, l'opérateur en question, ben, c'est soit la densité totale sur le site, soit le spin sur le site. Alors, et puis je vais appeler phi, d'une manière générale, phi, comme paramètre d'ordre, la valeur moyenne de l'opérateur OI calculée dans l'Hamiltonien H. Alors, la première chose à remarquer, c'est que je peux obtenir phi en prenant une dérivée de l'énergie libre, donc log trace exponentielle moins bêta H, hein, par rapport à lambda I. Alors ça, ça vient encore de Hellman-Feldman. C'est parce que d lambda I, dH d lambda i, c'est égal à l'opérateur O. Ça, c'est Hellman-Feldman. Alors, donc ça me donne la réponse, le paramètre d'ordre obtenu quand on met un champ extérieur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux la réponse, c'est-à-dire je veux savoir comment le paramètre d'ordre au site i varie quand je varie le champ extérieur au site j. Ça va me donner la matrice des fonctions de réponse. Et pour faire ça, je dois prendre une deuxième dérivée. Alors là, il y a une petite erreur qu'on peut faire facilement en mécanique quantique, qui est d'écrire brutalement que la deuxième dérivée de phi par rapport à lambda va me donner la fonction de réponse à temps égaux. Bon, ça, ce n'est pas vrai, parce que maintenant, je ne peux plus appliquer Hellman-Feldman une deuxième fois aussi facilement. Donc en réalité, ce qu'on trouve, quand on fait ça, il faut faire de la théorie des perturbations dépendant du temps. Bon, c'est des choses de base, je ne les fais pas en détail au tableau parce que je n'ai pas le temps. Il faudrait quand même revenir à la physique du modèle de Hubbard assez vite. Ce qu'on trouve quand on fait ça, c'est que d phi d lambda j, ce n'est pas la fonction de réponse à temps égaux, donc qui est évidemment la deuxième dérivée de l'énergie libre par rapport à lambda i, lambda j, ça c'est bien sûr vrai. C'est l'intégrale de la fonction de réponse sur le temps. Donc ici, j'utilise par exemple un formalisme de temps imaginaire où je quantifie en temps imaginaire, le temps va de 0 à bêta, avec bêta égal 1 sur kt, hein, c'est la température, et bien de la fonction de réponse connectée OI de 0, ou de taux OJ de 0, moins la partie connectée, la partie disconnectée. Voilà, donc ça c'est l'intégrale de la fonction de corrélation CIJ de l'opérateur O en fonction de taux. Et donc ce que me donne cette dérivée, donc la susceptibilité thermodynamique du système, hein, c'est la fonction de réponse, ici la partie réelle de la fonction de réponse, donc je mets un prime pour partie réelle, prise à oméga égale 0, puisque c'est l'intégrale sur le temps. Voilà. D'une manière plus générale, évidemment, on veut s'intéresser à la fonction de réponse dynamique, qui j, de taux ou de oméga complète. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est que cette quantité est reliée à la deuxième dérivée par rapport au paramètre d'ordre phi de la fonctionnelle de Gibbs gamma qu'on avait tout à l'heure. Donc là, je l'ai exprimé comme la fonctionnelle f. Je voudrais l'exprimer comme la fonctionnelle de Gibbs. Alors, pour faire ça, ce n'est pas compliqué. J'écris tout simplement que les phi... Donc, je reviens à ma fonctionnelle de gamma. Hein, je veux relier ça au gamma des phi. Alors, pour faire ça, on voit que phi, c'est phi exprimé au point de stationnarité des multiplicateurs de Lagrange que j'avais introduit tout à l'heure, qui sont des fonctions de phi. Prenons une dérivée de cette chose-là par rapport à phi. Vous trouvez que delta ij, donc je prends une dérivée par rapport à phi j, vous trouvez que delta ij, c'est la somme sur k de d phi d lambda k des valeurs stationnaires des lambda d phi j. Ça, c'est la fonction de réponse, hein, puisque c'est la dérivée qui m'intéresse. Donc c'est la somme sur k de qui ik. Alors ici, qui ik, c'est la fonction de réponse à fréquence nulle, hein, fois d de gamma, puisque lambda c'était d gamma des phi, d de gamma sur d phi k d phi j. Donc qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit que le produit de la matrice fonction de réponse par cette matrice des dérivées secondes est égal à 1. Et donc, je trouve que que d de gamma sur d phi j, alors j'oublie un signe moins quelque part qui est très important, je ne sais pas très bien où, mais bon, est égal à qui moins 1 ij. Ah oui, je sais où j'ai oublié un signe moins. J'ai oublié un signe moins parce que d phi, voilà, parce qu'il y a un moins ici. D'accord. Donc, qui d de f sur d lambda d j, c'est moins qui. Donc, c'est ça la relation clé que je voulais établir. D de gamma, d phi j égale l'inverse matriciel de la matrice des fonctions de réponse. Évidemment, tout ça, c'est à oméga égale 0, parce que c'est une dérivée thermodynamique. Alors, une fois que j'ai ça, c'est très simple, je veux calculer les fonctions de réponse en champ moyen. Évidemment, j'en ai profité pour effacer la fonctionnelle, c'est très dommage, je vais la réécrire. Donc, vous vous souvenez que si je m'arrête au niveau du champ moyen, la fonctionnelle gamma dans l'approximation du champ moyen, c'est la fonctionnelle gamma 0 du système libre, plus u sur 4, somme sur i, de ni carré moins mi carré. Voilà. Et donc maintenant, je prends ces dérivées, soit par rapport aux densités, et j'obtiens la fonction de réponse de charge, de densité-densité, soit par rapport aux aimantations. Et donc, vous voyez que ce qu'on trouve, c'est que qui moins 1 charge, c'est égal à qui 0 moins 1, donc ça c'est qui ij, hein, c'est d2 gamma dni dnj, qui moins 1 ij, c'est ça, qui est aussi égal à moins d2f sur d mu i d mu j. Donc qui moins 1 charge, c'est qui 0 moins 1 charge, plus u sur 2, et de même qui moins 1 spin. Alors, si je suis dans l'espace réel, il y a un delta ij ici. Et puis, qui moins 1 spin, c'est qui 0 moins 1 moins u sur 2. Alors, ceci se généralise facilement aux fonctions de réponse dépendant de la fréquence. Alors, je peux évidemment prendre la transformée de Fourier de ces expressions. Et je vais trouver que qui moins 1 de q, je peux généraliser ce raisonnement aux susceptibilités dynamiques, charge ou spin, c'est qui 0 moins 1, on va mettre le 0, je ne sais pas où, quelque part ici, qui 0 moins 1, charge ou spin, plus ou moins u sur 2, de q et d'oméga. Donc voilà l'expression des fonctions de réponse en champ moyen. Et vous voyez que ça, c'est une, pour ceux, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent cette expression, c'est ce qu'on appelle l'approximation RPA. RPA pour Random Phase Approximation. Et vous voyez que c'est tout simplement l'expression naturelle des fonctions de réponse en champ moyen quand on pense en champ moyen en termes de fonctionnel de Gibbs et de transformé de Legendre à paramètres d'ordre fixé. Et c'est la bonne manière d'y penser, en fait. Voilà. Donc ça, c'est l'approximation RPA pour les fonctions de réponse. Évidemment, ce n'est pas une expression exacte, hein, c'est le premier terme du développement perturbatif des inverses des susceptibilités en puissance de U. On peut aussi le dire comme ça. Bon, on va voir dans un tout petit instant les conséquences de ces formules. Voilà, bon, ça clôt un petit peu la partie, je dirais, un peu plus formelle que je voulais vous faire au cours précédent, en fait, mais j'avais pris du retard sur la théorie du champ moyen. Et maintenant, je vais revenir à des conséquences pratiques. Alors d'abord, puisqu'on est aux fonctions de réponse, on peut le faire en partant des susceptibilités. Donc, je vais revenir ici. Pour avancer avec ces fonctions de réponse dans l'approximation RPA, il faut que je sache calculer la fonction de réponse du système libre. Alors ça, c'est un exercice simple que je ne vais pas vous refaire en détail, qui est de calculer Q0-1, donc du système libre, calculer la fonction de réponse Q0 de Q et d'oméga, qu'on appelle aussi quelquefois la fonction de Linard. Il y a plusieurs manières de faire ça. Une manière, c'est d'utiliser un petit peu de problème à n-corps et de voir la fonction de Linard comme une convolution de deux fonctions de Green. Donc ça, c'est une manière de faire. Je calcule tout simplement, pour ceux qui aiment les diagrammes, cette bulle avec deux fonctions de Green libres ici, 1 sur oméga plus mu moins epsilon k. Alors, si on a un vecteur d'onde Q qui arrive ici, on aura par exemple ici k, et ici k moins q, voilà, ou je pourrais mettre aussi, peut-être c'est plus simple, k et k plus q, peu importe. Donc chacune de ces fonctions ici est une fonction de Green libre, et donc je dois faire une convolution de 1 sur oméga plus mu moins epsilon k plus q, et 1 sur oméga plus mu moins epsilon k, à la fois sur les fréquences et sur les vecteurs d'onde. Donc ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, en fait, c'est d'écrire les équations de champ moyen pour un ordre incommensurable Q arbitraire. Alors ça, on peut le faire si on prend un ordre spirale, par exemple. Je n'ai pas le temps de vous le faire au tableau, mais c'est facile à faire parce que on n'a pas besoin de faire une grande cellule d'unité. On peut continuer à le faire de la même manière que, en fait, on fait l'antiferromagnétique que je vais vous faire maintenant. Et puis, on prend explicitement deux dérivées de la réponse du système par rapport au champ appliqué, et on obtiendrait la même expression par des moyens pédestres sans utiliser de diagramme. Donc, il y a ces deux manières de faire, il y en a certainement d'autres. Et quand vous faites ça, vous trouvez que Q0 de Q et d'oméga, expression tout à fait classique, est donnée par... Alors, il y a évidemment une somme sur K qui vient des convolutions. Voilà, je l'ai écrit pour un système fini, disons 1 sur NS, somme sur K. Il y a un facteur moins et un facteur 2. Et puis, F de epsilon K moins mu moins F de epsilon K plus Q mu divisé par oméga plus epsilon K moins epsilon K plus Q. Vous voyez qu'il y a un moins ici si j'ordonne les choses de cette manière. Vous verrez tout de suite pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est une expression classique de la fonction de Linhart du système libre. Évidemment, pour le système libre, le Q0 de charge est égal au Q0 de spin. Alors, juste une petite remarque ici, c'est parce que j'ai défini Sz comme étant n up moins n down, pas 1/2 de n up moins n down. Je me suis affranchi du facteur 1/2 dans la définition du spin. Sinon, Q0 spin serait un quart de Q0 charge. Mais pour rendre les choses simples, j'ai défini Sz comme n up moins n down, donc Q0 spin est égal à Q0 charge. Alors, une petite remarque sur cette fonction de Linhart, des choses bien connues. On va d'abord, dans un premier temps, regarder le cas d'une instabilité ferromagnétique, juste rapidement. C'est-à-dire la réponse à un champ uniforme, donc où je mets un champ uniforme sur tous les sites, qui va donc se coupler au spin total. D'accord ? Donc ça, ça correspond, puisque je couple de manière uniforme au spin total, ça correspond à la limite Q égale 0. Vecteur d'onde uniforme. Alors vous voyez sur cette expression que si je fixe oméga, et que je prends la limite Q tend vers 0 de la partie réelle de cette expression. Alors, partie réelle et imaginaire viennent du fait qu'ici, oméga doit être conçu comme oméga plus une petite partie imaginaire I epsilon. Donc, vous voyez immédiatement ici, je fixe oméga. Quand Q tend vers 0, le numérateur tend vers 0, le dénominateur est protégé par oméga, et donc cette fonction tend vers 0, à oméga fixé. Alors, est-ce que ça veut dire que le système a une susceptibilité ferromagnétique nulle ? Pas du tout, parce qu'en réalité, la susceptibilité thermodynamique du système, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas je fixe oméga, je fais Q tend vers 0, c'est je mets oméga égale 0, parce que c'est la réponse statique, et je fais Q tend vers 0. Et là, ça, les choses se passent bien différemment, parce que vous voyez que si oméga est nul au départ, le numérateur et le dénominateur sont tous les deux s'annulent tous les deux quand Q tend vers 0. Autrement dit, et c'est un fait bien connu, dans les fonctions de réponse, la limite Q tend vers 0 et la limite oméga tend vers 0 ne commutent pas. Et les fonctions de réponse thermodynamiques, c'est la limite où je mets oméga égale 0 d'abord et je regarde ensuite la réponse du système au vecteur d'onde qui m'intéresse. Alors faisons cet exercice dans le cas ferromagnétique. Alors en fait, pourquoi est-ce que cette susceptibilité ferromagnétique à oméga fixé est nul? Eh bien, pour une raison très simple, qui est que l'hamiltonien commute, ça on l'a vu en grand détail dans les cours précédents, c'est une des symétries qu'on a utilisées quand on a regardé les diagonalisations exactes, l'hamiltonien commute avec le spin total. Vous vous souvenez, on a beaucoup utilisé ça. Donc, comme l'hamiltonien commute avec le spin total, la fonction de réponse aimantation totale ne peut pas avoir de dynamique. D'accord ? Donc elle est indépendante du temps, et c'est pour ça que la seule réponse elle est à oméga nul. Mais évidemment, c'est une particularité du fait qu'on a regardé un champ conjugué à une quantité conservée. Ça ne serait pas le cas, comme on va le voir tout à l'heure, avec l'aimantation alternée. Alors maintenant, faisons l'exercice inverse, c'est-à-dire prenons d'abord oméga égale 0, et ensuite, Q tendant vers 0. Alors, dans ce cas-là, il faut faire un tout petit peu plus attention. Ça veut dire, comme les deux, le dénominateur et le numérateur sont tous les deux singuliers, il faut les développer. Et donc, je vais développer epsilon k plus q sous la forme epsilon k plus q gradient de epsilon, etc. Et donc, vous voyez que j'obtiens quoi? J'obtiens q' 0 de q tend vers 0 oméga égale 0, donc la fonction de réponse thermodynamique. Le numérateur me donne une dérivée de la fonction de Fermi par rapport à l'énergie, donc j'obtiens deux fois la dérivée. Alors, comme Q est ici, ça me donne moins la dérivée, mais il y a un moins devant. Ça tombe très bien, parce que comme ça, je trouve une fonction de réponse positive. Donc l'intégrale sur la zone de Brillouin, normalisée, hein, c'est ça que je veux dire, de moins df d epsilon k. Alors j'ai oublié de vous dire ici, f c'est la fonction de Fermi, f de x, f de epsilon, c'est 1 sur 1 plus exponentielle de bêta epsilon. Bêta c'est toujours 1 sur kt. Et donc je trouve ici, vous voyez, deux fois l'intégrale d'epsilon, d de epsilon, de moins df d epsilon, où d de epsilon c'est la densité d'état. Et par exemple, dans la limite t tend vers 0, cette dérivée moins df d'epsilon tend vers une fonction delta. Il y a un mu qui se promène ici, hein, parce qu'il y a un mu dans la fonction de Fermi, il est là-bas. Et donc ça me donne, dans la limite t tend vers 0, deux fois d du niveau de Fermi. Alors maintenant, si vous utilisez cette expression dans l'expression des susceptibilités en champ moyen, autrement appelée expression RPA, vous voyez que bon, les deux se compensent, Et vous voyez que ça suggère une instabilité ferromagnétique lorsque U fois D de epsilon F, alors ça c'est un critère de température nulle, lorsque U D de epsilon F est plus grand que 1. Et c'est ce qu'on appelle le critère de Stoner. Si on en croit ce critère, on devrait trouver qu'il y a la possibilité d'une instabilité ferromagnétique du modèle de Hubbard quand U est plus grand que cette valeur critique 1 sur D de epsilon F. Évidemment, il faut comparer cette instabilité avec d'autres instabilités possibles à d'autres vecteurs d'onde. Je vais faire ça tout de suite. Mais je vous annonce tout de suite que ce critère de Stoner, c'est-à-dire le critère d'instabilité en champ moyen, est extraordinairement optimiste. Et en réalité, le vrai diagramme de phase est très loin, quantitativement au moins, de sa description en champ moyen. Donc ce critère est, disons, on va dire, overly optimistique ou pessimiste, selon que vous aimez ou non le ferromagnétisme. Bon, voilà. Alors, donc ça, c'était une application directe des fonctions de réponse dans l'approximation du champ moyen. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est reprendre les équations du champ moyen et écrire les équations à l'intérieur de la phase ordonnée. On va très rapidement le faire pour le ferromagnétisme, puisqu'on y est. Et puis ensuite, je vais rapidement passer au cas antiferromagnétique, qui est le plus pertinent, en fait, pour la discussion d'aujourd'hui. Donc, je vais vous revenir à la théorie du champ moyen complète. Disons, on regarde l'intérieur de la phase ordonnée. Ça, c'est un critère en venant de la phase non magnétique. Et on va résoudre les équations du champ moyen maintenant à l'intérieur de la phase ordonnée. Peut-être garder la fonction de Linhart, on va s'en servir par la suite et je vais reprendre ici. Donc, théorie du champ moyen du ferromagnétisme. Donc là, je me spécialise à un type de phase où la densité locale est uniforme, mais l'aimantation locale, EMI, vaut une valeur finie M. Donc, l'aimantation uniforme ferromagnétique. Alors, vous voyez que dans le cadre de la théorie du champ moyen, je dois résoudre un problème d'électrons libres qui est défini par ma matrice de saut TIJ, plus, eh bien, vous vous souvenez que les énergies de site, c'était epsilon I up égale U Ni down. Donc, les densités Ni up, c'est N plus M sur 2. Et puis, Ni down, c'est la même chose avec un moins, N moins M sur 2. Donc, je peux écrire que mes énergies de site, c'est U sur 2, pardon, je vais les écrire ici, U sur 2, N moins sigma M. J'enlève le potentiel chimique aussi, fois delta IJ, hein, où sigma vaut plus et moins pour up et down. Donc ça, c'est la matrice que je dois diagonaliser. Alors, évidemment, c'est un problème d'électrons libres, elle est diagonalisable à vue, ça me donne deux bandes, EK sigma, qui sont mes epsilon K de départ. Vous voyez que ce terme modifie le potentiel chimique par UN sur 2, donc ici j'aurai epsilon k moins mu tilde, où mu tilde c'est mu moins un sur 2. On dit quelquefois que c'est le décalage de Hartree du potentiel chimique. Et puis ici, moins sigma um sur 2. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai deux nouvelles bandes. Je vais vous faire toujours un dessin à une dimension parce que c'est difficile de faire mieux. Donc j'ai ma bande de départ, disons mon cosinus de départ. Est-ce que cette... Ce que ceci fait, c'est que ça introduit un décalage en énergie vers le bas pour la bande d'aimantation majoritaire. Donc maintenant, j'ai une bande qui est décalée vers le bas, une bande qui est décalée vers le haut. Donc ça, c'est la bande majoritaire. Et ça, c'est la bande minoritaire. Et je dois écrire que le niveau de Fermi s'ajuste pour accommoder le nombre total d'électrons qui est fixé. Et l'aimantation est donnée par la différence des populations entre la bande majoritaire et minoritaire. Donc je peux facilement écrire ces deux équations, qui sont les deux équations autocohérentes de ma théorie de champ moyen. Donc je peuple les deux bandes décalées en énergie. Donc ici, ça va me donner F de epsilon moins um sur 2 moins mu tilde, plus F de epsilon plus um sur 2 moins mu tilde. Et l'aimantation, ben c'est la même chose, mais avec un signe moins. Exactement la même chose, je ne vais pas vous l'écrire avec un signe moins. D'accord ? Donc, la même expression avec un signe moins. Voilà, alors si vous résolvez ces deux équations, vous pouvez d'une part calculer, donc disons, pour n fixé, vous pouvez calculer mu tilde là, et puis ensuite, vous pouvez calculer l'aimantation en fonction de la température et de U. Alors on peut regarder un petit peu où ces équations sont instables, et on va retrouver tout de suite notre critère de Stoner. Alors pour regarder où ces équations sont instables, il suffit de prendre la deuxième équation ici et de faire un développement à l'ordre 1 en M. Si je développe au voisinage de l'instabilité, l'aimantation est petite, et donc je peux développer cette équation, il va y avoir un terme d'ordre M avec un certain coefficient ici, et puis un autre terme d'ordre M cube, etc. Pourquoi M cube ? Parce que cette expression est impaire en M, donc elle contient forcément uniquement des termes impairs. On fait juste la symétrie de spin. Alors, qu'est-ce que c'est le terme linéaire en M ? C'est le terme de l'équation d'état linéaire en M, et donc ça correspond au terme quadratique en M dans l'énergie libre. Donc, si je regarde le terme d'ordre M carré dans un développement de Landau dans gamma de M, mon énergie libre de Gibbs de tout à l'heure, eh bien, le terme linéaire en M de l'équation d'état me parle du terme d'ordre M carré dans l'énergie libre, et le changement de signe de ce terme en M carré, c'est lui qui signale la transition de phase du deuxième ordre, puisque ça veut dire que mon énergie libre de Gibbs passe d'une situation à courbure positive à une situation à courbure négative. Donc il suffit de regarder le moment où ce terme d'ordre M change de signe, c'est-à-dire le moment où ce coefficient ici est égal à 1, pour trouver l'instabilité. Alors si vous développez ce terme à l'ordre M, vous trouvez tout simplement que M est égal à U, intégrale des epsilon, je développe mes fonctions de Fermi, fois D de epsilon, moins DF des epsilon, fois M, plus les termes d'ordre M cube. Et vous voyez qu'on a retrouvé notre critère de Stoner qui me dit tout simplement qu'il y a une instabilité quand ce terme ici est plus grand que 1. Alors vous pouvez aussi vous amuser à utiliser plutôt gamma de M directement et vous vérifierez que gamma de M, c'est gamma de M égale 0, donc dans l'approximation du champ moyen bien sûr, plus le terme d'ordre M carré. Eh bien, c'est m carré fois u sur 4 fois 1 moins bêta u fois cette intégrale ici. Et donc, effectivement, ce terme change de signe quand on passe le critère de Stoner. Voilà, donc ça, c'est les équations de champ moyen dans la phase ferromagnétique. Et je vais vous montrer tout à l'heure un diagramme de phase. Bon, je vais peut-être vous le montrer tout de suite, après tout, pourquoi pas. Alors voilà, donc ceci est un diagramme de phase dans l'approximation de champ moyen qui ne considère que deux types d'ordres possibles. Alors en réalité, dans l'approximation de champ moyen, il y a beaucoup d'autres ordres possibles, comme on va le voir dans un instant, mais ce diagramme de phase ne considère que deux types d'ordres possibles, l'ordre ferromagnétique et l'ordre antiferromagnétique commensurable à Q égale pipi, aimantation alternée. Alors, il compare les énergies libres pour le modèle de Hubbard sur un réseau carré avec saut plus proche voisin seulement. Alors, vous voyez, quand on fait ça, eh bien, on trouve que le ferromagnétisme est repoussé ici assez loin. En réalité, si je faisais ce calcul avec seulement la phase ferromagnétique, j'aurai une phase ferromagnétique beaucoup plus étendue, mais au voisinage du demi-remplissage, l'antiferromagnétisme gagne, et l'antiferromagnétisme gagne immédiatement, comme on va le voir tout de suite, pour des raisons d'emboîtement de la surface de Fermi. Donc au voisinage du demi-remplissage, et pour toute valeur de U au demi-remplissage, on a une phase antiferromagnétique commensurable, au niveau du champ moyen. Hein. Le ferromagnétisme existe ici, dans cette région. Et puis, on a un ordre non magnétique ici. Il y a beaucoup de choses fausses dans ce diagramme de phase. En réalité, ce diagramme de phase n'est pas du tout vraiment comme ça. Mais c'est ça qu'on trouve quand on fait le champ moyen uniforme pour ce modèle. Je vais commenter sur tous les aspects insatisfaisants de ce diagramme de phase dans le reste du cours. Bon, alors, vous voyez qu'ici, ça nous montre tout de suite qu'une chose importante, c'est de faire la théorie de l'antiferromagnétisme. Et je vais rapidement l'esquisser. C'est probablement des choses que vous avez déjà vues, mais je vais quand même le faire assez vite, parce que c'est très important. Donc maintenant, on va faire le même exercice, mais pour une instabilité antiferromagnétique. Je vais rajouter ici anti, et je vais me limiter, pour l'instant, à une instabilité au vecteur d'onde PPP, c'est-à-dire à un ordre donné L alterné. Donc maintenant, j'ai toujours une phase de densité uniforme, c'est mon hypothèse. Mais maintenant, j'ai une aimantation locale qui va être moins 1 puissance i fois l'aimantation alternée, ms. Et comme précédemment, moins 1 puissance i, comme quand on avait vu les symétries, c'est plus 1 sur le sous-réseau A et moins 1 sur le sous-réseau B. Alors, vous voyez maintenant que l'hamiltonien effectif que je dois diagonaliser, l'hamiltonien libre effectif, hein, c'est quelque chose qui fait intervenir mes hopping. Alors, je vais le faire dans le cas où j'ai des sauts plus proches voisins seulement. Donc, je peux aussi l'écrire comme ça, Ij plus proche voisin, j'ajoute ici le complexe conjugué. Et puis, j'ai des énergies de site effectives, epsilon i sigma et ni sigma, qui sont maintenant égales à, comme tout à l'heure, un sur 2, qui est le décalage de Hartree du potentiel chimique, toujours mon moins fois sigma UMS sur 2, mais maintenant, il y a moins 1 puissance i ici, à cause de l'alternance entre les sites. Voilà, et puis toujours, évidemment, le terme de potentiel chimique, et puis si je veux être complet, je dois rajouter aussi le terme. Voilà, alors maintenant, il faut diagonaliser ce problème. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. La manière la plus simple, à mon avis, c'est d'introduire maintenant, comme j'ai deux sous-réseaux et qu'ils ont des énergies de site inéquivalents, je n'ai plus que de l'invariance par translation sur une cellule unité deux fois plus grande, donc avec des translations de vecteurs deux fois plus grands. Et donc, il est commode d'introduire les transformées de Fourier partielles sur le sous-réseau A et le sous-réseau B. Donc, ça, c'est le nombre de sites dans le sous-réseau A. Ça, c'est les sites du sous-réseau A, exponentielle de IKRI, C croix I sigma. La même chose pour le sous-réseau B. Hein. Donc ça serait C croix K sigma A. Et puis, de même, C croix I sigma, c'est 1 sur racine de N. Donc maintenant, je vais introduire un indice alpha qui vaut A ou B. Donc ça va être C croix I alpha sigma. Ça, c'est le nombre de sites sur chacun des sous-réseaux. Et puis, je vais mettre ici somme sur K. Alors, je peux travailler dans la zone de Brillouin réduite, qui correspond sur le réseau carré, par exemple. Ça, c'est ma zone de Brillouin de départ, qui va de moins pi sur A à pi sur A, dans les deux directions. Et la zone de Brillouin réduite, c'est celle qui correspond aux translations sur le réseau de maille 2A. Donc, ça va être cette salle-là. La zone de Brillouin réduite. Je peux aussi choisir de continuer à travailler dans la zone de Brillouin étendue, ce n'est pas très grave. Exponentielle de moins IKRI, il faut juste faire attention quand on écrit les équations, C croix K sigma alpha. Voilà. Alors vous voyez que si je travaille comme ça, je peux diagonaliser immédiatement grâce à ces transformées de Fourier cet hamiltonien en utilisant la nouvelle invariance par translation, et ça me donne un hamiltonien à un corps H, petit h K sigma, qui est, alors, les termes de Hopping, c'est des termes qui couplent le terme sur la transformée de Fourier sur le sous-réseau A et la transformée de Fourier partielle sur le sous-réseau B. Donc maintenant, c'est des termes qui apparaissent sur la diagonale de la matrice, les termes antidiagonaux de la matrice. Et puis ici, je vais avoir les énergies de site, donc qui va être moins sigma, UMS, donc ça c'est l'hamiltonien pour le spin sigma, oui, UM sur 2 plus sigma UMS sur 2. Donc ça c'est une matrice de traces nulles, comme vous voyez, et ces énergies propres s'obtiennent juste à partir du déterminant, et donc j'ai deux bandes, EK plus et moins, qui sont plus ou moins racines de epsilon k carré plus u ms sur 2 au carré. Et je peux aussi dire que introduire une échelle d'énergie delta, qui est la moitié du gap entre les deux bandes, delta égale UMS sur 2. Vous voyez que tout ça commence à beaucoup ressembler à la théorie des CS, et ce n'est pas un hasard, puisque j'avais expliqué lors du premier cours déjà qu'il y avait, dans le cas demi-rempli, une symétrie entre le problème des CS et le AU négatif et le problème AU positif. Mais vous allez voir dans un instant que cette analogie avec la théorie BCS, il faut la prendre avec un petit grain de sel. Je vais expliquer ça tout de suite. Alors, pour finir l'écriture des équations de champ moyen, je dois calculer donc le dessin, si vous voulez, des bandes maintenant. Alors, je crois que j'ai un slide, en fait, pour ça. Ça sera peut-être mieux. Voilà. Le dessin des bandes, il est ici, à une et deux dimensions. Donc ce que vous avez ici, c'est la bande de départ, donc moins 2 cosinus k, disons, à une dimension. Pour représenter facilement ces deux branches plus ou moins racines, j'ai aussi représenté la branche décalée epsilon k plus q, ou qui est aussi égale à moins epsilon k dans ce cas. Et puis vous voyez que ce que fait ce delta, c'est d'ouvrir un gap. Ici, j'ai tout représenté dans le cas demi-rempli. Donc le gap est exactement à plus ou moins pi sur 2, c'est-à-dire qu'il s'ouvre exactement sur la surface de Fermi du système libre. Voilà, même dessin ici à deux dimensions. Vous voyez, ça c'était la surface de Fermi en diamant du système demi-rempli, et le gap s'ouvre sur cette surface, et ça ce sont les deux bandes plus ou moins epsilon, plus ou moins k. Alors les deux équations autocohérentes, c'est tout simplement que la densité totale, c'est 1 sur n sur 2, somme sur k, de f de ek moins, moins mu, plus f de ek plus, moins mu. Et alors, quand on veut calculer l'aimantation staggered, il faut faire un tout petit peu attention, parce qu'il faut diagonaliser la matrice. Donc, il faut calculer n a up moins nb up, par exemple, qui est aussi égal à na up moins n a down par symétrie, donc qui est mon aimantation staggered. Et pour faire ça, il faut diagonaliser la matrice. Alors la matrice, elle se diagonalise par une transformation de ce type, qui est le déterminant 1, et vous calculez facilement que ces facteurs de cohérence, comme dans la théorie BCS, c'est uk carré vk carré égale 1,5 de 1 plus ou moins delta sur k. Quand vous utilisez ça, vous pouvez calculer ms, et vous trouvez que ms, c'est égal à 1 sur n sur 2, somme sur k dans la zone de Brillouin réduite, mais ici il y a un uk carré moins vk carré qui vient de la transformation entre mes électrons de départ C et puis la base qui diagonalise la matrice qui est là-bas, fois F de la bande moins, moins racine de epsilon carré plus delta 2 moins mu tilde 1, moins F de plus epsilon carré plus delta 2 moins mu tilde 1. Alors, il faut faire un tout petit peu attention à l'analogie avec BCS, puisque dans la théorie BCS, en réalité, si je regarde ces équations dans un cas qui n'est pas le cas demi-rempli, vous voyez que il n'y a pas une symétrie particule-trou parfaite entre ces deux bandes. Parce qu'elles sont, il y a ce décalage de mu tilde. Donc en réalité, les deux bandes en question ne sont pas symétriques particules-trous, alors que dans la théorie BCS, puisque le gap s'ouvre dans le canal particule-particule, il y a une symétrie parfaite entre particules et trous pour les deux bandes. Et cette symétrie parfaite ici n'est réalisée que dans le cas demi-rempli. Alors ça, c'est normal, puisqu'on a vu que le cas demi-rempli, en présence d'un champ magnétique uniforme éventuellement, se mappait sur le cas U négatif d'OP. Mais le cas demi-rempli, mais le cas répulsif, je crois que j'ai dit des bêtises là, je ne l'ai pas dit bien, je répète. Le cas répulsif en présence d'un champ magnétique uniforme, au demi-remplissage, se mappe sur le cas attractif d'OP. Voilà. Mais ici, on regarde le cas attractif, pas forcément au demi-remplissage. Donc, il n'y a pas, en dehors du demi-remplissage, un mapping sur le cas U négatif. Ça, c'est un point qui est important à comprendre. Et donc, la symétrie parfaite que vous voyez ici, avec le gap qui s'ouvre de manière symétrique entre particules et trous, elle est réalisée parce que ces dessins sont faits au demi-remplissage. Voilà, alors continuons un petit peu sur l'analyse des instabilités de cette équation. Donc vous voyez, je peux faire le même exercice que tout à l'heure et développer cette expression en puissance de l'aimantation alternée. Alors si je développe ces expressions en fonction de puissance de l'aimantation alternée, je vais calculer le terme d'ordre ms et puis éventuellement le terme d'ordre ms cube. Et puis de nouveau, le moment où le coefficient de ce terme d'ordre ms est égal à 1 va me donner la position de l'instabilité. Alors vous pouvez faire ce petit exercice de développement et ce que vous trouvez à ce moment-là, c'est tout simplement l'équation suivante qui est que 1 égale u sur 2 intégrale d epsilon d de epsilon sur racine de epsilon 2 plus delta 2 et un terme qui vient des dérivés de la fonction de Fermi, tangente hyperbolique de bêta sur 2, racine de epsilon 2 plus delta 2. J'ai écrit ces termes au demi-remplissage, quand mu tilde égale 0. Et dans ce cas-là, cette équation est exactement identique à l'équation de Gabb-BCS. Alors, pour les mêmes raisons que dans l'équation de Gabb-BCS, vous voyez très facilement que cette expression... si je la regarde par exemple à température nulle, pour me simplifier l'existence, donc à t égale 0, tangente hyperbolique vaut 1, donc j'ai 1 égale u sur 2 intégrale des epsilon. Donc ça me définit le u critique maintenant, où va apparaître l'antiferromagnétisme, d de epsilon sur racine de epsilon 2 plus delta 2. Alors regardons un petit peu cette équation. Qu'est-ce que ça me dit? Eh bien, ça me dit que... vous voyez que cette équation, quand delta tend vers 0, a une singularité à epsilon égale 0. Donc regardons déjà un cas où la densité d'état au niveau de Fermi, qui est ici 0, parce que je suis dans le cas demi-rempli, particule trou symétrique, serait non nulle. Ça serait le cas, par exemple, à 3 dimensions. 3 dimensions, c'est, serait fini, je veux dire. Fini et non nul. Donc c'est par exemple le cas à 3D. Dans le cas à 3D, la densité d'état, c'est quelque chose qui est comme ça. Et donc la valeur ici est finie. Dans le cas à deux dimensions, c'est un petit peu plus subtil parce que la densité d'état au niveau de Fermi diverge à cause de la singularité de Van Hove qui est au point pi 0 et 0 pi. Donc cette analyse doit être affinée un tout petit peu. Mais regardons déjà le cas, par exemple, tridimensionnel, toujours avec une surface de Fermi emboîtée. Vous voyez que quand delta tend vers 0, cette équation a une singularité logarithmique à epsilon égale 0, hein, puisqu'on n'est plus protégé par delta. Et donc on va obtenir ici quelque chose qui va se comporter comme u sur 2 fois un log, très grossièrement, un log de delta quand delta tend vers 0. Alors ça me dit immédiatement que il y a immédiatement une instabilité dès que u est fini. Donc la singularité logarithmique me dit que delta va se comporter comme, si vous analysez cette équation un peu plus soigneusement, W, la largeur de bande, un cutoff, peu importe, exponentielle de moins 1 sur U fois D de 0, qui est l'expression BCS classique, qui vous montre qu'il y a une instabilité dès que U égale 0 dans ce problème. Et ceci est lié à l'emboîtement parfait de la surface de Fermi, comme je vais l'expliquer dans quelques instants. On peut aussi regarder cette équation dans la limite opposée où U tend vers l'infini. Donc quand U tend vers l'infini, en fait ça me donne le gap pour toutes les valeurs de U, si vous voulez. Quand U tend vers l'infini, vous voyez que ce qui se passe, c'est que delta va devenir grand. Donc c'est ce terme qui domine. L'intégrale ici en epsilon carré n'a plus d'importance. La dépendance en epsilon carré n'a plus d'importance. Donc ici, l'intégrale de la densité d'état est 1. Et vous trouvez immédiatement que 1 vaut U sur dans U sur 2 delta, ce qui veut dire que delta est égal à U sur 2. Comme on dit, le gap entre les deux bandes de delta vaut U. Et quelle est l'interprétation de ça? Eh bien, l'interprétation de ça, tout simplement, c'est que delta, 2 delta, dans ce contexte, est le gap de charge la différence d'énergie, en fait, entre enlever un électron de mon système demi-rempli ou ajouter un électron et créer une double occupation. Ça me donne U, et c'est le gap de charge du système. Alors, cette expression qui est ici est un peu plus compliquée dans le cas D égale 2. Dans le cas D égale 2, il y a une singularité de Von Hoff. La densité d'état diverge logarithmiquement en zéro. Voilà un dessin très grossier. Et en analysant cette équation, vous trouvez que delta, c'est quelque chose, delta sur le hopping, c'est quelque chose qui est exponentiel de moins 2 pi racine de t sur u. Vous voyez que ça augmente la valeur du gap. Et il y a d'ailleurs eu pas mal de spéculations, en particulier au début de la théorie des OTC, sur l'importance de la singularité de Von Hoff pour augmenter la valeur de TC dans ces systèmes, à cause de cette racine carrée qui est là. Voilà, alors ceci éclaire un petit peu, je pense, le diagramme de phase que je vous montrais tout à l'heure. Alors, où est-il? Voilà, ici. Donc vous voyez ceci éclaire pourquoi on avait une instabilité antiferromagnétique dès qu'on augmentait U, dès qu'on avait U infinitésimale à partir de U égale 0 dans le cas demi-rempli. Donc ça résulte de l'emboîtement parfait de la surface de Fermi et l'analogie directe avec la théorie BCS. Voyez aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous êtes en dehors du demi-remplissage, la symétrie particule-trou parfaite qui est essentielle à la théorie BCS est brisée, et même si l'équation en général a une certaine similarité formelle avec la théorie BCS, eh bien, il faut une valeur critique de U pour induire la transition dans ce cas-là. Bon, donc c'est cette frontière ici, hein, entre la phase paramagnétique et la phase antiferromagnétique, c'est tout simplement le résultat de l'équation qui est là. Et en revanche, pour comparer, pour trouver cette frontière ici, il faut faire un calcul d'énergie, l'énergie libre, qui compare l'énergie libre de la solution ferro qu'on a calculée tout à l'heure et l'énergie libre de la solution antiferro. Voilà. Donc si on fait ça, eh bien, dans le cas du modèle de Hubbard à deux dimensions en fonction de la densité U à température nulle, si on admet seulement ces deux phases, on trouve ce diagramme de phase. J'ai extrait ce diagramme de phase d'un article classique qui est antérieur au cuprate supraconducteur, qui est dû à Hirsch, qui, dans le même article, commencé par la théorie de champ moyen, mais dans le même article, faisait une des premières simulations Monte-Carlo déterminantales de ce modèle. Donc c'était en 85, et c'est assez amusant de relire cet article, parce que les méthodes Monte-Carlo à l'époque étaient, en raison de l'utilisation de cet algorithme déterminantal, étaient confinées à très haute température, et à très haute température, eh bien, ils ne voyaient pas de corrélation magnétique. Et donc, il en concluait qu'un diagramme de phase possible du modèle de Hubbard à deux dimensions était celui-ci, dans toute sa simplicité, c'est-à-dire un isolant antiferromagnétique dans l'état fondamental, ici, à température nulle, au demi-remplissage, et puis un métal paramagnétique partout ailleurs. Alors, on sait depuis que la réalité est quand même beaucoup plus compliquée que ça, et c'est assez rafraîchissant de regarder cet article, qui est un très bel article, c'est une première simulation du modèle Hubbard bidimensionnel, je crois. Voilà, alors arrivé à ce point, vous avez absolument tous les éléments en main pour essentiellement deviner le diagramme de phase. Alors je vais continuer un petit peu au-delà de mon comme j'ai commencé en retard, je vais continuer au moins un bon quart d'heure. Donc vous avez tous les éléments en main pour essentiellement deviner le diagramme de phase, au moins d'un cas simple, comme le cas, enfin simple si on peut dire, comme le cas tridimensionnel de mi-rempli. Alors pourquoi je dis tridimensionnel et pas bidimensionnel ? Eh bien parce que, comme on va le voir vers la fin du cours, et en tout cas beaucoup au début du cours prochain, toutes ces histoires de champs moyens, c'est très bien, mais à deux dimensions en particulier, on a le théorème de Mervyn-Wagner et les fluctuations des modes de Goldstone qui détruisent toute possibilité d'ordre magnétique à longue portée à température finie. D'accord. On peut parler évidemment d'ordre dans l'état fondamental, mais à deux dimensions, les fluctuations jouent un rôle absolument crucial. À trois dimensions, en revanche, on peut avoir des phases magnétiques à température finie, et donc on peut imaginer qu'on n'est pas trop mal guidé par la théorie de champ moyen, au moins dans le régime de couplage faible. Et puis dans le régime de couplage fort, on peut se rappeler tout ce qu'on a fait au cours 2 avec les diagonalisations exactes de petits systèmes, le dimère et la plaquette. Et en combinant un petit peu tout ça ensemble, eh bien on peut essentiellement deviner le diagramme de phase au demi-remplissage. Encore une fois, en combinant un petit peu la théorie de champ moyen et les idées de couplage faible dans cette limite, la projection sur un modèle de Heisenberg et les idées de couplage fort dans la limite U grand, et puis à très haute température, on peut tout simplement s'inspirer de ce qu'on a vu sur la limite atomique de site découplé. Tout est très local dans cette limite de très haute température, donc ce n'est pas forcément un mauvais point de départ. Et sur cette base, on peut essentiellement deviner le diagramme de phase. Le calculer précisément, c'est un peu une autre affaire, mais on peut au moins le deviner. Alors, je vais essayer de vous le faire imaginer ici au tableau, et puis après je vous montrerai un ou deux slides. Donc toujours pour le modèle avec juste un saut plus proche voisin. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Bon, les deux paramètres qui nous restent sont la température normalisée par le Hopping et U sur T. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? Mais on a vu qu'il y avait une phase antiferromagnétique et en couplage faible, on peut peut-être croire la théorie de champ moyen qui nous dit que, comme le gap, la phase antiferromagnétique a une température qui a cette singularité essentielle qui démarre exponentiellement comme exponentielle de moins 1 sur U. Donc ça nous dit ici qu'il va y avoir une transition antiferromagnétique qui fait quelque chose comme ça. Ça, c'est la phase antiferromagnétique. Et puis à U grand. Alors à U grand, si je suivais cette théorie de champ moyen, j'en conclurais que la température de Néel devient d'ordre U à U grand, parce qu'elle suit delta. Ça, c'est manifestement une mauvaise interprétation, disons, de ce que veut nous dire la théorie de champ moyen. Ce que veut nous dire la théorie de champ moyen, c'est que à U grand, le gap de charge devient d'ordre U. Et la température critique, c'est complètement autre chose. Et en fait, vous connaissez déjà la réponse parce que dans cette limite de U grand, à basse énergie, on a un sous-secteur de l'espace de Hilbert qui est décrit par le modèle de Heisenberg. Et on sait bien que la température critique, elle est au mieux de l'ordre du super-échange, de la constante d'échange du modèle de Heisenberg. Donc elle va être d'ordre 4t carré sur U fois un coefficient qui décrit la réduction par les fluctuations quantiques par rapport à la théorie de champ moyen du modèle de Heisenberg. Donc certainement, la température critique ici est d'ordre 1 sur U, et donc elle fait quelque chose comme ça. Mais ce que nous dit la théorie de champ moyen, c'est-à-dire que le gap de charge est d'ordre U, c'est quelque chose de correct. Et entre les deux, ben, il doit y avoir quelque part un optimum. Donc cette région-là, est bien décrite par le modèle de Heisenberg, cette région-là est bien décrite par la théorie de champ moyen, faire le calcul entre les deux demande des méthodes numériques. Alors maintenant, on peut un peu... Donc, disons, quand on voit les choses comme ça, on a bien l'idée qu'ici, on va avoir un isolant antiferromagnétique avec un crossover graduel entre un régime où on peut voir l'ouverture du gap comme un mécanisme de couplage faible. Dans ce contexte-là, on parle de mécanisme de Slater et un isolant de spin localisé qui se met antiferromagnétique entre eux à cause du super-échange d'Heisenberg, mais la localisation de charge ayant lieu à une énergie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Donc ça, on est dans la limite de Heisenberg, et on pourrait aussi parler d'isolant de Mott, puisque la localisation de charge a lieu à des échelles d'énergie beaucoup plus grandes que la mise en ordre des spins. Dans l'analogie avec U négatif, c'est le crossover entre le régime BCS, où les paires se forment et condensent à la même échelle d'énergie, et le régime BEC, où on forme les paires à une énergie d'ordre U, et on les condense à une énergie qui est le saut résiduel des paires d'ordre T carré sur U. Alors ça, c'est donc, pour ce qui concerne la physique de la mise en ordre des spins, on a aussi dit qu'ici, il y avait des spins, il y avait des moments locaux, donc si vous voulez, en dessous de cette échelle d'énergie qui est le gap de charge, il y a ici des moments locaux, et donc ici, on a un isolant de mode paramagnétique. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? Ben là, on a un métal, en fait, hein, puisque en dessous d'une certaine échelle d'énergie caractéristique, qui en couplage faible va être de l'ordre de l'énergie de Fermi, donc le Hopping, on va avoir, quand on baisse la température, un gaz de Fermi dégénéré, avec des excitations de quasi-particules. Donc ici, on a un métal, on peut négocier un peu pour savoir s'il s'agit vraiment d'un liquide de Fermi. Dans le cas d'une surface de Fermi parfaitement emboîtée, ça ne va pas être exactement un liquide de Fermi parce qu'on a des propriétés d'emboîtement qui, strictement parlé, à basse énergie, détruisent le liquide de Fermi à la Landau. Mais on a quand même un vrai métal. Hein, et on peut se demander quelle est l'évolution de ce crossover-là entre un régime de haute température où tout est assez incohérent et un régime de basse température où j'ai des bonnes quasi-particules métalliques. Alors, calculer ce crossover-là, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande des théories plus sophistiquées, beaucoup plus sophistiquées que cette théorie de champ moyen, qui est incapable de répondre à cette question. Il faut utiliser soit une approximation de type théorie de champ moyen dynamique, qui donnerait une solution exacte du problème dans la limite de grandes dimensions, soit des méthodes numériques directes pour calculer ce crossover, qui est, si vous voulez, la température caractéristique d'apparition de quasi-particules dans le système. Et en fait, c'est quelque chose qui décroît avec les corrélations. Donc on pourrait appeler ça la... Fermi Coherent Scale, ou si vous voulez, la température effective de dégénérescence du gaz de Fermi. J'hésite à l'appeler température de cohérence des quasi-particules, parce qu'encore une fois, dans le cas emboîté, on peut négocier sur l'existence ou non de quasi-particules dans le sens strict. Mais enfin, moralement, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai dessiné ces crossovers de manière un peu plus artistique, si on peut dire, ici. Donc ça résulte d'un calcul. Enfin, il n'y a pas beaucoup de points de données, mais il y en a quand même quelques-unes qui utilisent l'approximation de la théorie de champ moyen dynamique. Donc vous voyez, ça c'est la ligne de Néel. Bon, il faut rajouter des points ici. La courbe est en fait comme ça. Donc c'est la courbe de Néel, la température de transition dans l'approximation du champ moyen dynamique pour le modèle de Hubbard tridimensionnel demi-rempli. Ça, c'est dans la même approximation l'estimation de cette température de cohérence du liquide de Fermi. Ici, j'ai dessiné à la main le gap de charge qui devient d'ordre U. Et donc, si vous voulez vous faire un peu une idée, avoir une caricature du système, une sorte d'instantané de la fonction d'onde, disons, dans chacun de ces régimes, ici, vous avez un isolant antiferromagnétique de Mott avec des spins gentiment ordonnés par le super-échange. Ici, vous avez plus de fluctuations, donc vous commencez à avoir quelques doubles occupations et quelques trous, et vous voyez que les spins sont désordonnés, on a des moments locaux qui fluctuent. Donc ça, ce serait l'isolant de Mott paramagnétique. Ici, on a un régime de Slater, qui est plutôt se représenter comme une onde de densité de spin avec une aimantation Stargardt de faible amplitude. Et ici, on a un liquide, disons un métal, ou... je l'ai appelé liquide de Fermi sur ce slide, avec dans chaque instantané de la fonction d'onde, beaucoup de doubles occupations et de trous, ce qui permet la mobilité des porteurs de charge. Donc vous voyez que même dans le cas très simple du modèle demi-rempli, eh bien, ce modèle de Hubbard a déjà un certain nombre de crossovers qui contiennent pas mal de physique. Et au bout de 4 cours, on a fini, en gros, avec les mains, par comprendre quelle pouvait être la nature de ces crossovers en utilisant différents régimes, différentes limites d'approximation, couplage faible, couplage fort, limite atomique, etc., etc. Voilà, alors si vous voulez voir une détermination plus précise de cette ligne de transition, ici j'ai extrait ça d'un article de revue de Körger-Ringer qui parle des méthodes diagrammatiques au-delà des MFT et qui compare différentes méthodes d'approximation pour la température de Néel du modèle de Hubbard tridimensionnel. Alors on peut certainement faire mieux avec les méthodes de Monte Carlo diagrammatiques en particulier. Donc ici c'est la théorie de champ moyen dynamique qui interpole quand même bien entre, disons, le régime de Slater et le régime de Heisenberg, mais qui est évidemment trop haute à grand U parce qu'elle n'a pas les fluctuations quantiques du modèle de Heisenberg. Et puis ici il y a différentes approximations, peu importe. Ici, la ligne rouge, qui est probablement assez proche de la vérité, c'est un développement diagrammatique au-delà de la théorie de champ moyen dynamique, la méthode des gammas, dont va peut-être, je pense, nous parler un peu Thomas Schaeffer dans les séminaires de tout à l'heure. Bon, alors, comme d'habitude, je suis évidemment très en retard, et je ne vais pas avoir le temps de vous parler de fluctuations et de deux dimensions aujourd'hui, je ferai ça la prochaine fois. Je voudrais quand même complètement conclure le cours sur la théorie de champ moyen. Et pour ça, je voudrais revenir à la question de qu'est-ce qui se passe quand maintenant je dope ce système. Alors, que se passe-t-il ? Alors, comme on l'a vu la dernière fois, il y a d'une part la tendance à localiser les trous sur des régions spatiales, les mettre ensemble spatialement, donc c'est la formation de murs de domaine ou de stripes, mais il est utile pour ça de revenir quand même à l'analyse des phases homogènes, c'est-à-dire où on n'a pas ce partitionnement du système entre antiferromagnétiques magnétiques non perturbés et rubans de trous, mais où on continue à regarder les choses en termes de vecteurs d'onde et d'instabilité dominante, et donc regarder la possibilité d'ondes de densité de spin dans le système qui ne soient pas des ondes de densité de spin commensurables à Q égale pipi, mais des ondes de densité de spin avec un vecteur d'onde arbitraire. Alors ça, c'est important, en particulier parce qu'on voit bien, quand on regarde cette fonction de réponse ici, qu'il va se passer des choses au vecteur d'onde, donc oméga égale 0 à la réponse thermodynamique, au vecteur d'onde ou Q, qui sont telles que epsilon, un vecteur d'onde Kf sur la surface de Fermi, donc qui vont donc être définis de cette manière, va également satisfaire epsilon Kf, bon, je vais enlever le potentiel chimique pour faire plus simple, epsilon Kf plus Q égale 0. Alors si je peux trouver un vecteur d'onde Q qui prend un point de la surface de Fermi et l'emmène sur un autre point de la surface de Fermi, ce qu'on appelle un vecteur d'emboîtement, on voit bien que c'est ça qui va contribuer à avoir une susceptibilité magnétique grande. Alors, ici, j'ai fait un dessin dans lequel je représente, dans un schéma de zone de Brillouin étendue, donc chacun de ces carrés, c'est une zone de Brillouin, et ce que j'ai représenté, c'est la surface de Fermi du système dopé maintenant, si j'étais à deux dimensions. Donc si j'étais dans le système demi-rempli, la zone de Brillouin, ce serait le carré, le diamant parfait, d'accord ? Maintenant, je suis un petit peu dopé en trou, donc ma surface de Fermi, pardon, c'est cette surface de Fermi ici, de type électron, qui contient un petit peu moins de particules. Et le dessin qui est là est censé vous montrer qu'il est plus favorable de former une onde de densité de spin qui est diagonale, qui est horizontale ou verticale, donc avec un vecteur d'onde qui sera pi moins une petite quantité à faible dopage pi, que pi moins epsilon, pi moins epsilon. Alors, comment est-ce que vous pouvez voir ça? Bon, alors, prenons la surface de Fermi de départ, décalons-la de pi pi, donc ça va vous donner quelque chose qui est la surface de Fermi en pointillé rouge ici. Et maintenant, décalons cette surface de Fermi par un vecteur diagonal, donc delta delta, delta petit. Alors, vous voyez que je peux trouver un delta où cette surface de Fermi décalée, qui est la surface de Fermi bleue, vient tangenter la surface de Fermi de départ. C'est ça le vecteur d'emboîtement. Ici, je vais avoir la possibilité d'ouvrir un gap facilement dans ces équations de champ moyen. Seulement, si je fais ça, vous voyez, si je translate par un vecteur diagonal, je vais ouvrir un gap seulement ici, sur ces parties, là et là, de la surface de Fermi. En revanche, si j'utilise un vecteur de translation horizontale, donc je prends cette surface de Fermi, je la décale de pipi, et maintenant je la translate horizontalement. Donc vous voyez maintenant que cette surface bleue, elle vient tangenter les deux parties ici, donc qui correspondraient à là, et ici, de la surface de Fermi. Donc j'ouvre un gap sur une plus grande partie de la surface de Fermi. Et donc cet argument vous dit immédiatement que, puisque c'est la formation du gap qui conduit à un gain énergétique dans la théorie de champ moyen, cet argument vous dit immédiatement qu'il est plus favorable, en couplage faible, d'avoir une onde de densité de spin horizontale ou verticale, plutôt qu'une onde de densité de spin avec un vecteur d'onde diagonal. Alors vous pouvez aussi le voir sur la fonction de réponse. Si je regarde tout simplement cette fonction de réponse ici, donc là, j'ai fait un dessin dans le cas demi-rempli. Donc vous voyez, cette fonction de réponse, on a vu qu'elle était maximum, elle avait une divergence logarithmique en fait à pipi, qui correspond à l'instabilité qu'on a vue tout à l'heure. En revanche, quand je dope le système, eh bien, les maxima de cette fonction de réponse se déplacent à Q0, à Qpi ou Pq, d'accord, qui sont ces deux maxima ici, et non pas ici. Le vrai maximum, il est là. Donc ceci vous montre que en couplage faible, si on suit ces critères d'instabilité de champ moyen, on trouve une onde de densité de spin incommensurable quand on dope, donc qui n'est pas exactement pi-pi, mais qui est pi moins epsilon pi, où epsilon est proportionnel au dopage, en couplage faible. Alors, voilà, bon, ça c'est la même chose. En revanche, quand vous montez la température, à partir de cette solution de champ moyen, eh bien, vous pouvez rester dans une phase avec de l'ordre magnétique, toujours au niveau du champ moyen, mais passer de nouveau dans une phase commensurable, parce que la solution commensurable étant plus symétrique, elle a en fait plus d'entropie. Donc vous gagnez en entropie en faisant ça. Donc ça, c'est un diagramme de phase un peu générique, disons, que vous donne la théorie de champ moyen, où en fonction du dopage, donc le demi-remplissage est là, vous dopez, vous trouvez que vous formez une onde de densité de spin incommensurable verticale ou horizontale, donc avec un vecteur pi, pi moins delta, avec un certain dopage critique. Et puis, quand vous partez de cette onde de densité de spin incommensurable et que vous chauffez le système, il y a une transition vers l'ordre de Néel pi, pi, et puis finalement vers la solution paramagnétique. Alors, ceci peut être raffiné. Là, je montre des diagrammes qui m'ont été fournis par Léa Mampont, qui est un stagiaire dans notre équipe, qui travaille avec Fedor Simkovic et Michel Ferrero, et qui a résolu les équations de champ moyen sur un réseau carré. Et donc, vous voyez ici que, effectivement, quand on est dans un régime de couplage faible, dans un régime de dopage intermédiaire, on trouve ces ondes de densité de spin incommensurables horizontale ou verticale, mais que en fait, quand on commence à augmenter la force du couplage, eh bien, on peut aller vers des solutions avec des ondes de densité de spin diagonale, QQ, donc qui sont ces régions marron ici, qui croissent quand on augmente la force du couplage, puisque l'argument que je viens de vous donner tout à l'heure est un argument typique d'instabilité de couplage faible. Et puis, vous voyez aussi le phénomène dont je parlais tout à l'heure, qui est que quand on chauffe, on repasse dans une phase commensurable. Voilà, donc ça c'est un petit peu le diagramme de phase qu'on trouve typiquement quand on permet des ordres, disons, homogènes à des vecteurs d'ondes bien déterminés. On peut raffiner ces analyses, et ça a par exemple été fait dans ce type d'article, qui maintenant met en compétition tous les différents ordres possibles, homogènes, et également la possibilité d'une séparation de phases, c'est-à-dire de régions riches en trous et de régions riches en spin, avec une construction de Maxwell, et vous voyez qu'on trouve un diagramme de phase qui est assez compliqué au niveau du champ moyen, tout ça c'est le champ moyen statique, mais qui reflète un petit peu les propriétés générales dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ici on va trouver une phase ferromagnétique, ici on va trouver une phase paramagnétique, ici on va trouver des ondes de densité de spin incommensurables, horizontales ou verticales, ici on va partir vers une onde de densité de spin diagonale, etc. etc. Alors que reste-t-il de ce diagramme de champ moyen quand on introduit les fluctuations? Ça c'est une question, une bonne question, pas forcément grand-chose, mais ce diagramme a pour but de vous montrer ce qui se passe dans la théorie de champ moyen. En fait, on peut montrer qu'en couplage faible, déjà, cette onde de densité de spin incommensurable, horizontale ou verticale, est instable vers la formation de murs de domaine à basse température. Donc, des solutions de type STRIPES, dont j'ai un petit peu parlé. Alors, ça, c'est un très très bel article paru dans le journal de physique, qui montre analytiquement en fait qu'il y a une instabilité de ces ondes de densité spin incommensurables vers des murs de domaine. Je n'ai pas le temps de vous en parler en détail, mais pour ceux que ça intéresse, je vous recommande vraiment de lire cet article. Il y a un petit peu de mécanique quantique supersymétrique dans cet article qui montre l'existence d'étaliers à énergie nulle, où les trous veulent se mettre. Donc c'est vraiment de la jolie physique. On trouve des solutions de ce type. Avec des endroits où l'antiferromagnétisme est non perturbé et puis des endroits au mur de domaine entre les deux régions d'antiferromagnétique où viennent se localiser la charge. Et on sait maintenant, par toutes sortes de méthodes numériques, qu'effectivement, dans l'état fondamental du modèle de Hubbard bidimensionnel, il y a un régime de, faible, de dopage faible où ces solutions de type STRIPES existent. Donc ces solutions de type STRIPES où on a de l'antiferromagnétisme non perturbé et puis des trous qui viennent se mettre à la lisière entre deux domaines antiferromagnétiques flippés de pi, en antiphase, décalés d'une cellule unité, si vous voulez. Alors c'est une conclusion qu'on trouve, j'en avais déjà parlé la dernière fois, donc je ne vais pas recommencer, mais qu'on trouve dans toutes sortes de méthodes, le groupe de normalisation de la matrice densité, et également quand on résout les équations de champ moyen Hartree-Fock inhomogènes en laissant le système faire ce qu'il veut sur chaque site. J'en avais un peu parlé la dernière fois, je ne vais pas y revenir en trop grand détail aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc si vous voulez, à l'issue de tout ça, on peut donner une image un petit peu qualitative des différents régimes. Par exemple, en fonction de la température et à faible dopage. Et tout ça suggère que, bon, à très haute température, on a un système paramagnétique. Quand on va diminuer la température, on va pouvoir passer dans une onde de densité de spin commensurable, pour les raisons anthropiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Cette onde de densité de spin va devenir incommensurable à plus basse température. Et puis finalement, à basse température, dans l'état fondamental, on va trouver des phases de type STRIPES avec des rubans de trous, des domaines antiferromagnétiques séparés par des rivières essentiellement unidimensionnelles de trous. Évidemment, à deux dimensions, il faut interpréter ces différents régimes de densité de spin comme des crossovers, puisqu'il n'y a pas d'ordre à longue portée, et ce sera le thème du cours de la prochaine fois, pour le spin. Il peut y en avoir pour la charge, parce que l'onde de densité de charge brise une symétrie discrète. Voilà, donc il faut voir ça comme, un aspect qualitatif. Le champ moyen exagère, même le champ moyen inhomogène exagère l'étendue de ces phases ordonnées, donne évidemment des brisures de symétrie à température finie quand il ne devrait pas à cause de Mermin-Wagner. Mais on peut penser quand même qu'il y a une certaine vérité qualitative des différentes phases possibles. Alors je voudrais quand même finir, donc ça c'est un des premiers travaux qui ont établi l'existence de ces phases de STRIPES par les méthodes de groupe d'emmission de la matrice densité. Je voudrais quand même finir par un commentaire qui rapproche plutôt des expériences. Je vais passer un petit peu là-dessus. En vous disant que ces phases avec des ondes de densité de charge ont été observées expérimentalement dans certaines familles de cuprates supraconducteurs, également dans les nickelates, là où ils ont été trouvés la première fois. Ceci étant, les phases qui sont observées expérimentalement dans ces familles de cuprates ou dans ces nickelates ne sont pas exactement ceux qui sont prédits par la théorie de champ moyen du modèle de Hubbard. Dans la théorie de champ moyen, on trouve des stripes qui sont demi-remplis avec des trous partout. Et ici, expérimentalement, on trouve plutôt qui sont remplis, alors qu'expérimentalement, on trouve plutôt des phases demi-remplies, donc des phases de stripe, par exemple, de période 4 pour un remplissage un huitième, un dopage un huitième, donc où il y a un trou sur deux dans les canaux unidimensionnels. Et alors, on peut se poser la question de pourquoi. Ça signale probablement que le modèle de Hubbard n'est pas exactement réaliste pour la description du matériau. On peut penser à T', on peut penser à des interactions de Coulomb de plus longue portée. Voilà, donc il faut placer tout ça dans le contexte, du point de vue physique, dans le contexte plus général des phases avec ordre de charge dans les cuprates supraconducteurs, qui est un sujet qui a connu beaucoup de développement relativement récent. Et je signale cet article de revue qui fait un peu le point sur les phases avec ordre de charge dans les cuprates supraconducteurs et les développements expérimentaux récents sur ce sujet. Pour finir, juste en une minute, je voudrais mentionner quelque chose qui est souvent un peu mal apprécié, qui est que contrairement à ce qu'on peut penser, les approches de type DMFT sont parfaitement cohérentes avec l'existence de stripes dans l'état fondamental. Et il y a plusieurs travaux qui montrent clairement que si on fait du DMFT inhomogène, c'est-à-dire qu'on laisse le système faire ce qu'il veut sur les différents sites du réseau, eh bien on trouve effectivement des phases de stripes en parfait accord avec les autres méthodes numériques, comme le DMRG par exemple, enfin en parfait accord au moins qualitatif. Voilà un très bel article qui fait ça, donc fait du DMFT inhomogène sur d'assez grands systèmes, et vous voyez le diagramme de phase ici, et c'est une étude de température nulle directe, et vous voyez ici les différentes phases de stripes qui sont obtenues dans ce système par ces méthodes. Voilà. Très bien, ben, écoutez, je vais m'arrêter, on va faire une pause de 5 minutes pour changer, et puis on va ensuite accueillir Thomas Schaeffer, qui doit déjà se demander ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est en retard. Et je n'ai pas eu le temps de vous parler de fluctuations. L'ensemble du cours de la prochaine fois sera consacré au cas bidimensionnel en couplage faible. Et vous verrez que tout est dominé par les fluctuations dans ce cas-là. Je commencerai par vous parler un petit peu de Mermin-Wagner et de modèle sigma non linéaire pour décrire les fluctuations magnétiques. Donc c'est le contexte le plus simple dans lequel on peut voir Mermin-Wagner à l'œuvre. Et puis ensuite, on arrivera à la fin du cours avec une théorie de couplage faible du pseudo-gap dû à ces fluctuations magnétiques. Voilà, je vous remercie.